Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle avec Anthony Morel.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue dans De quoi je me mêle, votre rendez-vous tech incontournable du week-end à consommer à toutes les sauces, en vidéo, en audio, en podcast, sur YouTube, sur Tech & Co, sur BFM Business, absolument partout, sans modération évidemment. On est ravi de vous retrouver pour décrypter l'actualité tech de la semaine. Alors vous l'aurez remarqué, c'est pas François Sorel cette semaine, c'est pas sa voix qui a mué, vous inquiétez pas, non. Il est en vacances l'ami François, on lui souhaite bien du plaisir, il nous écoute j'en suis sûr, on l'embrasse très fort. Et donc c'est moi, c'est Anthony Morel, vous connaissez un peu si vous suivez l'émission régulièrement, bah, qui tient la boutique, qui prend l'intérim et je vais essayer d'être à la hauteur du patron, c'est pas forcément évident. Allez c'est parti, de quoi je me mêle. Vous inquiétez pas, on va pas bousculer vos habitudes, ça va être comme à chaque fois deux parties. Tout à l'heure, restez bien avec nous, on sera avec l'ami Lionel Costa du Labo Fnac qui viendra nous faire un point et un classement très précis des meilleurs smartphones pour la photo. Critère extrêmement important, comme chacun sait. Mon petit doigt me dit que ça va se jouer entre les Pixel 8, les derniers iPhone, peut-être le Galaxy S24, mais il y aura peut-être des outsiders aussi. Ouais. Il y a peut-être des marques un petit peu inattendues, on en discutera tout à l'heure. En attendant, évidemment, notre première partie, comme à chaque fois, le club de la presse IT avec cette semaine, autour de la table, Mélinda d'Avansoula. Salut Mélinda.
Salut Anto, salut JB.
Journaliste maison, évidemment, journaliste Tech & Co, présentatrice de multijoueurs aussi, évidemment. Beaucoup de choses, beaucoup de sujets à aborder avec vous deux, avec JB aussi. Jean-Baptiste Nicolet, bonjour. Salut JB. JB, The Eye Collection. Chaîne YouTube, évidemment, presque 1 million d'abonnés aujourd'hui, hein, quand même.
Ouais, ça arrive.
Ah, costaud, ouais. Tu vas avoir la petite.
Ouais, petit truc doré, là. Qui est
c'est quoi, c'est doré quand c'est 1 million
doré, ouais.
Ah, pas mal, pas mal. Sympa. T'es pas loin, là.
Ouais. Non, bon. Enfin, ça dépend.
Tu voudras bien venir nous voir encore après
ouais. Ou ouais, ça, c'est ça, comment... 1 million, normalement, après, t'as un melon, c'est plus
ouais,
possible. C'est...
Après, ouais. il ne voudra plus de nous. On fera ça tous les deux.
On fera ça tous les deux, écoute, avec François.
François qui viendra à ma place.
C'est ça. Donc, spécialisé notamment test produit Apple, beaucoup de voitures électriques aussi, j'ai vu que tu faisais ça. Alors, je suis très content de vous avoir parce qu'on va. Un petit peu parler d'Apple, ça, c'était pas prévu comme ça, mais il y a de l'actualité Apple, pas que d'Apple, parce que sinon après on se fait enguirlander sur Internet et les gens disent « Ouais, ils parlent que d'Apple, on en a marre !» Non, il y a plein de sujets à aborder, on va parler d'une IA incroyable, vous avez vu ça, hein, d'OpenAI, là, qui est capable de reproduire, cloner n'importe quelle voix avec un échantillon de 15 secondes. Voice Engine, absolument dingue. Amazon, qui abandonne ses magasins autonomes pour une raison un peu étonnante, on en parlera aussi. TikTok, qui veut nous rendre intelligents, alors ça c'est une première. Un peu étonnant aussi, on vous expliquera pourquoi. On parlera peut-être de l'anniversaire de Gmail si on a le temps aussi. Mais avant ça, quand même, pas mal d'actu autour d'Apple. Alors, c'est tombé cette nuit, on enregistre jeudi matin, des rumeurs. Apple, qui selon Bloomberg, qui est souvent assez bien informé, Mark Gurman, dont on parle souvent dans cette émission, qui nous dit qu'Apple est en train de travailler sur un nouveau produit. C'est pas tous les jours, évidemment. Ils ont abandonné leur voiture, le fameux projet Titan, et là, ils travailleraient sur des robots domestiques. Est-ce qu'on va voir des robots Apple débarquer dans nos maisons, Mélinda ?
Alors, iRobot, c'est déjà pris comme nom, faudrait
ah oui,
leur
c'est
dire.
Vrai. C'est l'aspirateur.
C'est mort, c'est l'aspirateur. Est-ce qu'on va les voir débarquer ? Alors, l'information qui était drôle, on sait qu'Apple a besoin d'un produit un peu waouh qui sorte. Alors la voiture, ça aurait été parfait. Est-ce que ce sera le robot ? Moi, je suis un peu sceptique.
J'y crois pas du tout.
J'y crois pas du tout. Je n'y crois pas tel que c'est raconté et tel que les gens commencent déjà à le fantasmer avec des robots à la Amazon Astro là, qui nous suivraient partout.
Alors qu'est-ce qu'il raconte
Alors,
Bloomberg ?
Mark Gurman dit Apple a travaillé sur deux idées en robotique pour la maison. Ça, c'est important, c'est pour la maison, parce qu'on sait qu'Apple est très tenté de s'implanter vraiment dans la maison. Ils y vont quand même à balle depuis des années. Un robot qui serait un robot un peu suiveur, donc à la façon de ce petit robot chien, souvenez-vous, Astro, qui vous suit, qui peut transporter des choses, qui peut surveiller la maison aussi.
Qui n'est pas dispo en France, qu'aux États-Unis
encore. Non, qu'aux États-Unis encore, qui coûte une surblinde, qui a 1 500-1 600 $. Ils auraient travaillé là-dessus et ils auraient travaillé sur autre chose qui me semble dans l'idée un peu plus crédible, qui serait en gros un écran iPad au hasard, au bout d'un bras articulé.
Ouais.
Alors, bras articulé, ne voyez pas le truc futuriste ou votre dentiste ou les bras qui font des pizzas. À mon avis, c'est plus dans le sens du stand Belkin, qui est un bras qui a motorisé, jusqu'à mon avis.
Ou du Mac tournesol des années 2000.
Ah oui, c'est vrai, je l'avais oublié.
C'était quoi le Mac tournesol? Vas-y, alors rappelle-moi.
C'était une demi-sphère qui était posée avec un bras.
Avec un bras.
Et l'écran qui était dessus et qu'on pouvait incliner.
Voilà, mais là, tu le faisais à la main. Mais dans l'idée, à mon avis, ce serait plus ça. C'est-à-dire qu'on aurait un bras articulé avec un écran qui serait capable de te suivre. Mais ça existe déjà aussi sur le Amazon, je ne sais plus lequel, là, qui se tournait et qui arrivait à tourner. Un Echo...
Ah oui, je me souviens.
Echo Show. Echo Show, je ne sais quoi. Echo Show 10, je ne sais pas quoi. Pour moi, c'est plus ça qu'un délire de bras. Ce sont deux pistes qui auraient été abordées, envisagées, sur lesquelles tu aurais commencé à travailler, mais qui seraient, comme dit McDermott, en phase 1, en gros réflexion. Ce serait arrêté là, il ne serait pas allé plus loin. Ça, c'est un peu le truc. Bon, voilà, ça travaille. Comme il y a, à mon avis, 1500 idées qui fusent chez Apple tous les ans et brevets, mais ça ne travaillerait pas plus loin que le concept.
Ce qu'il dit quand même, c'est que apparemment, ils ont à Cupertino, une sorte de laboratoire secret où ils testent tous leurs robots, là, une sorte de maison témoin, qu'ils ont recruté aussi des chercheurs intelligence artificielle, des spécialistes de la robotique. Ça va quand même assez loin. Donc visiblement, ils sont en train quand même de mettre les moyens, quoi.
C'est les chercheurs aussi du projet Titan qui est fort casé parce que bah, visiblement, on n'aurait plus besoin d'eux
pour
faire
besoin
des
bagnoles. Sur les voitures. Maintenant, vous allez faire des robots.
Après, honnêtement, le coût de la maison, je pense qu'on sait tous ça depuis quelques années.
Ah bon ?
Depuis qu'ils ont HomeKit, en fait. Donc depuis qu'ils ont HomeKit, il faut un endroit. Moi, j'avais vu dans des bureaux à eux en Europe où ils essayaient d'installer des choses pour tester HomeKit au début. Donc HomeKit, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le système de développement pour créer tout ce qui est en lien avec la domotique. Donc, qu'ils aient un espace à l'Apple Park avec des choses pour bosser sur de la domotique et voir comment leur système HomeKit, moi, ça ne me paraît pas délirant, en fait. Hein. C'est pas la plus grosse info de ce qui sort.
Bon, JB, est-ce que tu es un peu plus convaincu que Melinda? Parce que je me dis, moi, ils recherchent un projet industriel, effectivement. Ils ont abandonné leur voiture, donc ça aurait du sens de se lancer dans la robotique. Ils cherchent à se lancer à fond dans l'intelligence artificielle. Ça aussi, on le sait. Ça coche quand même pas mal de cases, le fait de bosser sur des robots.
Ouais, mais après, quand on voit qu'Amazon fait la même chose depuis des années et que finalement, ça prend pas du tout aux États-Unis, parce que finalement, leur petit robot Astro, bon, bah, on n'en voit nulle part. Hein. On en entend
parler. Non, mais
parler,
c'est cute, mais... hein.
C'est mignon. Hein. Mais bon, ça sert pas à grand chose parce que voilà, ça nous suit. Mais c'est vraiment comme si on avait son téléphone ou sa tablette sur un petit robot qui nous suit. Donc ça sert vraiment pas à grand chose. C'est pas du tout comme ce que Tesla peut faire avec ses fameux robots à eux. Là, c'est totalement l'inverse.
Les Optimus.
Voilà, les Optimus, ça a un sens, entre guillemets. Et là, pour le coup, nous suivre chez nous et nous donner la météo avec un petit robot qui est sur roulette.
Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, ça m'a fait penser, quand j'ai lu la description dans l'article, donc le petit robot qui te suit partout, à Bali, tu sais, le petit truc qui a été présenté par Samsung au CES, là, le petit robot Bali, qui te projette un écran, qui peut jouer avec ton animal de compagnie. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu plus gadget, là où les robots façon Tesla, t'as l'impression que c'est un vrai majordome humanoïde qui va pouvoir faire toutes les tâches à ta place. Quoi.
Et je pense qu'Apple se situe dans un entre-deux, c'est-à-dire que c'est pas Tesla, avec ce côté un peu futuriste, la vision futuriste du robot, qui fait un peu flipper. La version un peu ultra gadget avec des bonnes idées de Bali ou de Astro. Enfin, Apple, il faut toujours que ce soit fonctionnel pour le grand public. Là, on ne parle pas forcément de choses qui sont fonctionnelles pour le grand public. C'est pour ça que la robotique, à mon avis, telle qu'ils doivent travailler dessus, doit avoir un côté pratique. La maison, c'est une évidence qu'ils travaillent dessus et que ce sera pour ça. Mais je pense que les gens ont un peu trop fantasmé tout de suite sur l'information de voir des robots avec des pommes, logo pommes, balader.
Alors, en parlant de robots avec le logo pommes, je précise pour ceux qui nous regardent, parce qu'on voyait des robots avec des pommes à côté au début. C'est pas du tout les images officielles, on est d'accord.
Il n'y a pas d'image.
Zéro image.
Non, y a rien.
Mais il se trouve que pour illustrer le sujet, j'ai demandé à Stable Diffusion, donc l'IA, je lui ai dit fais-moi un robot créé par Apple, et il m'a fait un robot Apple avec une pomme à côté. Voilà, il n'y a pas tout compris, visiblement.
Il est très Amazon, hein, quand même, ton robot.
Ouais,
il ressemble un peu à, comment il s'appelle, le robot français, là.
Le Buddy.
Buddy, ouais.
Un petit peu, effectivement. Mais ils sont mignons, ils sont pas mal. Donc, je ne sais pas si ça peut inspirer Apple, éventuellement.
À mon avis, c'est trop futuriste pour Apple.
Ouais, peut-être. Bon, vous n'avez pas l'air de trop y croire.
Moi,
en tout cas,
quand même juste plus Apple sur lancer un écran style Amazon Echo Show 15, leur gros écran qu'on met, par exemple, dans sa cuisine sur le mur, où là, on a tout l'écosystème d'Apple, parce qu'il y a Amazon et Google qui font ça, mais Apple n'y est pas du tout. Donc, c'est comme ça qu'il pourrait encore plus arriver dans la maison aujourd'hui,
vrai.
À part sa télévision via l'Apple TV et encore.
Je crois plus à la rumeur qui circule depuis longtemps d'un espèce de HomePod mini avec un écran.
Bah oui.
Ça pour moi. Et dans ces cas-là, cet écran qui serait en effet motorisé pour te suivre partout, permettre les appels FaceTime et verrouiller et sécuriser. Je crois plus à ça. Enfin, cette version robotique pratique dans l'esprit d'Apple me semble plus cohérente que d'imaginer.
Et en plus, il y a des pour dire que ça sortirait peut-être l'année prochaine. Hein,
ouais. Ça fait des années qu'on entend cette histoire. Mais moi, je crois plus à ça, en tout cas.
Puisqu'on parle de rumeurs, bon là, apparemment, Mark Gurman nous a un peu survendu son truc à vous écouter. On verra s'il a raison ou pas. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que il y a en ce moment même un procès aux États-Unis, Apple qui fait la chasse aux taupes, justement, hein, Mark Gurman. Alors, on ne sait pas comment il est informé. Lui, je pense que pour le coup, c'est un vrai insider.
Moi, je pense que c'est Tim Cook qui lui file les infos.
Mais peut-être que Mark Gurman est Tim Cook. C'est peut-être Tim Cook qui écrit les articles et qui les envoie.
On les a déjà vus dans la même pièce.
Voilà, c'est ça, bonne question. Non, mais alors lui, je pense qu'effectivement, il a les infos directement et ça pose pas de problème à Apple, sinon il se serait déjà fait striker depuis longtemps. Mais en revanche, ce qui pose problème à Apple, c'est ce qu'on appelle les leakers, hein, ceux qui font fuiter les informations. Et là, Apple envoie un signal assez fort puisqu'il y a un procès aux États-Unis, un ancien ingénieur d'Apple, qui est accusé d'avoir fait fuiter un certain nombre d'informations, notamment sur le Vision Pro. Il s'appelle, c'est Andrew Ode, c'est ça,
JB ? Exactement, c'est un ancien ingénieur d'Apple qui était là depuis très longtemps chez Apple, qui était dans l'optimisation des batteries, donc il travaillait sur beaucoup de produits. Et il a été un peu pris la main dans le sac à envoyer des messages à des journalistes du Wall Street Journal et de plein d'autres médias américains.
Des milliers de messages.
Des milliers de messages, vraiment, pour leur donner des informations sur les produits qui allaient sortir, les applications qui allaient sortir, les mises à jour. Et du coup, tout simplement, Apple cherche vraiment à savoir qui donne ses fuites aux médias pour que ça s'arrête. Parce qu'Apple, on le sait, c'est l'entreprise un peu la plus secrète du monde. Ouais. Ils détestent ça. Ouais. D'un côté, ça leur fait de la pub gratuite, mais de l'autre, ça casse tout le mythe d'Apple qui est la sécurité. Ouais. Donc voilà, ils ont trouvé qui est l'auteur de ces fuites, Andrew Ode, et il y a un procès qui est en cours actuellement sur...
Ils l'ont poursuivi jusqu'aux toilettes quand même pour récupérer.
Ouais. Alors c'est ça
génial. Oui, mais le mec envoie ça de son iPhone Pro.
Pro, ouais.
À un moment, il faut quand même avoir deux secondes d'intelligence. Tu fais pas ça depuis ton iPhone Pro.
Il nie en bloc.
Et tu dis les toilettes, c'est parce que l'histoire, c'est qu'en gros, il a été confronté par la direction. Il a dit non, j'ai rien fait. Et il est allé aux toilettes pour effacer tous les messages.
Il s'est fait choper comme ça. À mon avis, c'était sur le cloud. Ça devait être sur iCloud.
Probablement.
Non, mais vas-y. On rigole, mais les problèmes de fuite, ça fait quand même des années.
Notamment aux toilettes.
C'est vrai que c'est le mieux. C'est vrai. Ça fait des années qu'ils sont confrontés à ce problème-là. On a déjà entendu que Tim Cook avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a des années, avait envoyé un mail pour engueuler tous les salariés pour leur dire que c'était pas possible, que s'il chopait des gens à balancer des infos, ça irait très mal. Il avait fait même une vidéo, à un moment, envoyée à tous les salariés quand il y avait beaucoup de fuites sur les iPhones. On se souvient aussi de cet ingénieur, je sais pas si vous vous souvenez, c'était pour l'iPhone XS, je crois, où il y a une nana qui est inconnue au bataillon sur YouTube, qui soudainement sortait une vidéo du prochain iPhone XS qui n'était pas présenté.
C'était pas sa fille.
Et en fait, elle était au Café Mac. Alors, JB et moi, qui sommes déjà allés à l'Apple Park, on sait que, et encore, c'était l'ancien, c'était au Loop, à l'Infinity Loop, personne ne peut rentrer et tu ne peux encore moins filmer. Et là, la gamine filmait l'iPhone XS tranquille.
Et c'était qui ?
La fille d'un des ingénieurs. Alors, ça, c'est souvent comme ça. Ouais. Lui s'en foutait, il se barrait.
Ouais.
Mais Lana avait fait des millions de vues, sauf qu'il s'est quand même pris une petite, petite rouste et une petite allemande.
Il grille dans le secteur aussi.
Et puis surtout, tu te grilles, quoi. Ouais, je comprends pas ça.
Je pense que c'est
foutu. Mais là, le mec, des milliers de messages à je ne sais combien de journalistes.
Ouais, mais c'est ça qui est intéressant,
c'est
je trouve.
C'est dingue, quoi.
Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir la motivation du gars, parce que, en fait, alors c'est aussi ça, hein, les leakers, qu'est-ce qu'ils y gagnent, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de transactions financières avec les journalistes, évidemment. Mais là. Oh, bah non, normalement, les journalistes ne vont pas payer les leakers quand même.
Enfin,
en France, c'est illégal, tu peux pas faire
alors,
ça.
En France, tu peux pas. Enfin, mais dans les pays anglo-saxons, sont assez...
Non, mais là, en tout cas, de ce qui est sorti, parce qu'on a eu en fait un certain nombre de ces échanges de mails, et en fait, le mec, il trouvait une certaine satisfaction personnelle. Il voulait en fait casser Apple.
Il s'en est vanté.
Il disait, il envoyait un message je sais plus, c'est un gars ou une fille du Wall Street Journal. Le gars du Wall Street Journal lui dit, l'article va sortir à telle heure. Il dit, ah génial.
C'est encore plus tôt. Ils se lèveront, ils auront directement l'information. Ils vont être pris de court.
J'ai hâte de voir comment ça va mettre la panique au sein de la direction. Donc le gars se réjouissait de ça, en fait.
J'ai du mal à comprendre cette démarche, en fait. Enfin, le mec a tout intérêt à la jouer discrète.
Ouais.
Après, à en tirer une certaine fierté personnelle, ça c'est une évidence. Je pense que pour son ego, c'était hyper sympa d'être celui qui filait les infos. Mais en fait, quand on en est à se barrer de la boîte, je veux bien croire que, c'est un peu au revoir président, je balance tout. Mais quand on y travaille et qu'en plus on se vante de ça, donc on multiplie les chances de se faire toper. Ouais. Il filait aussi, je crois, des infos à des youtubeurs, enfin à des streamers, des influenceurs. Ouais.
Non, mais clairement.
On se la joue discrète quand on veut.
Je pense qu'il jouait un jeu très, très, très dangereux, mais je pense que ta l'ivresse du fait d'être. Enfin, je veux dire, tu es au centre du monde, du monde tech, mais quand tu sors la rumeur et que tu vois la presse du monde entier, quand tu as le Wall Street Journal qui donne une info, tu as la presse du monde entier ensuite qui reprend, et c'est toi qui es à l'origine de ce truc-là, je pense que ça te grise, en fait, tout simplement.
Ouais, c'est marrant, c'est un truc de fou.
Ça montre bien, c'est un énorme casse-tête, pour une entreprise comme Apple, et maintenant, on le voit bien, parce qu'avant chaque présentation, on a quasiment toutes les infos avant, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Moi, je me souviens, il y avait vraiment ce côté surprise quand tu allais à une conférence Apple. Aujourd'hui, c'est quasiment plus jamais le cas, en fait.
Tu sais que je trouve qu'on en a même presque moins qu'à une époque. Là, on recommence à en avoir beaucoup avant les présentations, mais parce qu'on sait que beaucoup de leakers allaient directement aux usines en Chine et payaient des gens dans les usines pour récupérer des photos volées. Donc, il y a une époque où on avait beaucoup plus. Depuis le Covid, en fait, depuis le confinement, il y a eu toute une phase où on avait beaucoup moins d'infos parce que les mecs n'arrivaient plus à accéder aux usines, à accéder aux gens qui y travaillaient, à les payer, à filer des pots de vin pour avoir des infos. On sait que beaucoup de youtubeurs ont... Je ne parle pas pour toi, Jim.
Ouais, j'espère.
on fait leur bise grâce
Bien
à
sûr.
Ces infos.
Ouais.
On a quand même un petit peu moins d'infos. Mais il est vrai
qu'on
a toujours
tout. Je ne sais pas si c'est lié ou pas, mais... Le casque Apple, finalement, s'appelle Vision Pro. Tout le monde disait que ça s'appellerait Reality Pro. Ouais. Et je crois que c'est Tim Cook qui a changé le nom au dernier moment parce que, justement, il voulait prendre de court tous les gens qui avaient pu donner les rumeurs de Reality
Moi,
Pro.
Je pense que le mec, là, s'est fait gauler aussi parce que ils l'ont pisté apparemment pendant un certain temps et qu'ils ont dû réussir à lui glisser des fausses infos.
C'est ça. Mais ils font ça aussi, parfois.
La technique Steve Jobs. Steve Jobs faisait ça.
Mais il y a beaucoup de marques. Moi, j'ai discuté avec d'autres fabricants de smartphones qui s'amusent dans leur communication. En gros, il y a un secret de polichinelle dans le milieu. Apple joue pas trop là-dessus, mais qui est que certaines marques, pour se faire un peu de pub en cours de route, balancent des infos ouvertement à la presse, sous couvert de « on a appris que la source, c'est directement la marque ». Soyons clairs. Il y a des marques qui, aujourd'hui, pour contrecarrer ça, s'amusent à balancer des fausses infos pour voir en gros ce qui est repris, ce qui n'est pas repris. Et se faire aussi leur buzz sur des choses qui n'arriveront jamais, des nouveautés sur des smartphones qui n'existent pas. Et voilà, j'ai des marques qui m'ont dit, bah ouais, on fait ça, et peut-être que l'année prochaine, on fera ça avec les prix, parce qu'en gros, ça nous fait marrer, on sait qui prend quoi et qui chope quoi.
On va s'arrêter là sur les rumeurs Apple. Bon, je sais que Melinda est un peu dégoûtée parce que c'était sa source chez Apple, donc maintenant ça va être compliqué.
Du coup, je suis un peu à court d'infos.
Tim,
si tu m'entends.
Va falloir trouver quelqu'un d'autre.
Je vais aller voir Tim.
Écoute, prochaine fois que tu passes à Cupertino. On va parler d'intelligence artificielle, sujet sur lequel Apple est un petit peu en retard. On aura l'occasion d'en reparler, évidemment. Alors, il y a un groupe qui n'est pas en retard sur l'IA, c'est OpenAI. OpenAI, il n'y a pas une semaine sans qu'il n'y ait pas des annonces complètement dingues de produits plus fous les uns que les autres. On avait beaucoup parlé de Sora, notamment, l'IA qui génère des vidéos. Et là, ils ont présenté Voice Engine, une IA qui est capable de cloner une voix, c'est ça, à partir d'un échantillon, 15 secondes, on peut cloner n'importe quelle voix JB, c'est ça?
Ouais. Alors moi, perso, ça me fait un peu peur. Hein.
C'est vrai?
Bah, je me dis qu'on va où, en fait? On n'en est qu'au début, mais finalement, on n'est plus maître de ce qu'on va dire, puisqu'on ne sait pas où va être mis ce que l'intelligence artificielle va raconter à notre place, à des faits positifs, négatifs, enfin... Ça fait peur, je trouve.
On va faire
un petit échantillon.
Alors, c'est exactement ça. On va faire une petite démo. Enfin, les démos qui ont été publiées par OpenAI. Donc, ils en ont publié un certain nombre sur leur site. On va écouter le vocal d'origine de la personne et puis ensuite sa voix qui dit d'autres choses. Donc, le vocal d'origine, c'est celui-ci.
Force is a push or pull that can make an object move, stop or change direction. Imagine you're riding a bike down a hill. First, the push you give off the ground is the force that gets you going.
Donc là, on a la voix d'un monsieur qui nous explique comment pédaler sur un vélo, visiblement.
Il parle avec un naturel qui est assez déconcertant.
Voilà. Très, très bien. Donc 15 secondes de son, d'accord? La voix originale, et ensuite, on lui demande de raconter autre chose. C'est ça.
Some of the most amazing habitats on Earth are found in the rainforest. A rainforest is a place with a lot of precipitation, and it has many kinds of animals, trees, and other plants. Tropical rainforests are usually not too far from the equator and are warm all year.
Donc là, pour bien expliquer, la première voix, c'est la personne qui parle, et la deuxième voix, c'est en fait, on a cloné la première voix et on lui a fait dire complètement autre chose.
Tu sais ce que je trouve flippant? J'ai trouvé la deuxième voix beaucoup plus naturelle que la première.
Alors après le truc, c'est que...
Non, mais c'est flippant, parce que sur la première, il a des intonations hyper appuyées, que la deuxième est d'une fluidité déconcertante.
C'est vrai. Alors après, on ne sait pas dans quelle mesure OpenAI ne nous trompent pas non plus, parce que en fait on est obligé un peu de les croire sur parole. Ils ont publié ces petits des extraits audio en disant voilà, ça c'est l'original, ça c'est le clone.
T'as pas testé encore?
Ben on peut pas le tester.
Mais attends, t'ouvres.
Ben je sais, je suis un peu à la bourre. J'ai pas de source en interne chez OpenAI malheureusement, mais alors c'est intéressant aussi parce que OpenAI a dit en fait on va restreindre l'accès justement parce que ce que vous disiez, le problème c'est qu'on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui quoi. C'est un
mais
peu
c'est,
le.
Mais c'est compliqué quand même parce que la voix c'est vraiment l'élément. On sait qu'on peut truquer une image, je peux prendre des photos de vous, vous animer, faire n'importe quoi. La voix restait jusqu'à présent une espèce de terrain sacré auquel on ne touchait pas. Et c'était hyper dur de reproduire. Enfin voilà, même les meilleurs imitateurs, on arrive toujours à trouver que ce n'est pas ça. Là, ce que tu nous as fait entendre, je trouve ça flippant.
C'est
après, reste à savoir si ce n'est pas aussi une question de fréquence, de timbre de voix. Est-ce que c'est assez adapté à toutes les voix? On verra. Parce que des outils qui recréent des voix, moi j'en ai testé. C'est assez drôle, ça fait un phrasé un peu foireux, mais ça existait déjà.
Ouais.
Mais pour toutes les voix. Là, sur ce timbre de voix-là, moi, je trouve ça flippant.
Moi, j'avais testé un outil qui s'appelle Eleven Labs, qui permettait la même chose, mais il lui fallait des extraits un peu plus longs. Il fallait au moins une minute. Exactement.
Aussi,
et c'était pas encore complètement parfait. Et c'était qu'en anglais, dans un premier temps. Peut-être que maintenant, ça fonctionne en français.
Ouais,
à vérifier. Mais en tout cas, là, ça va encore beaucoup plus loin. Alors, s'ils ont limité le truc, c'est aussi parce qu'il y a eu toute une polémique aux États-Unis. On est en période de campagne électorale, donc c'est un très gros enjeu évidemment. Et il y a eu toute une histoire d'un clone vocal de Joe Biden. Hein, vous avez suivi ça, qui a été créé par son équipe de campagne et qu'on a utilisé pour appeler les électeurs. Donc en gros, les électeurs recevaient un appel de Salut, c'est Joe Biden, votez pour moi.
Mais ils sont au courant que c'est de l'IA.
Ben non, justement, c'est ça le truc.
C'est ça qui est dangereux.
C'est de la manipulation politique, quoi. Tu vois, enfin, c'est vraiment un des.
En plus, pour leur dire d'aller voter.
Alors c'était pour leur dire de ne pas aller voter à l'élection, à la primaire. Il y avait tout un calcul électoral derrière, quoi. C'est démentiel, quoi.
Mais là, on le sait, il y a quelques mois de ça déjà, Angèle, elle avait fait une musique avec un rappeur sur... elle avait posé sa voix, c'était pas sa voix, mais c'était l'IA qui avait recréé sa voix. Ça a cartonné.
Ouais.
Les jeunes ont adoré, tout simplement, cette musique qui est entièrement fausse.
Absolument.
Mais tu sais qu'il y avait eu des trucs flippants aussi. Moi, je me souviens, dans un autre exemple, c'était le maire de New York qui avait enregistré un message vocal pour les habitants, et en fait, l'avait fait traduire par une IA dans plusieurs langues, donc son message, il parlait avec sa vraie voix, c'est l'IA, je crois que c'est Google qui avait fait ça, et il parlait en espagnol, et il parlait en chinois, et des machins, et tout le monde avait dit, putain, on a un maire qui est polyglotte, c'est génial, et tout, et en fait, c'était juste une IA qui avait repris sa voix, et qui lui avait fait parler dans d'autres langues. Ouais. Donc on arrive à des trucs sur l'IA, qui, au niveau de la voix, qui sont hyper flippants, c'est pas pour rien qu'il y a eu le problème des acteurs de doublage aux États-Unis qui sont montés, qui là ont quand même eux obtenu un accord disant que maintenant, il faut bien, quand on utilise la voix d'un acteur, il faut que ce soit bien spécifié, que c'est recréé à l'IA, il faut l'autorisation. Enfin, qu'ils sont en train de mettre des garde-fous assez importants.
Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a un certain nombre de professions, notamment dans les métiers artistiques, qui commencent à monter au créneau. Là, tu parlais des acteurs, des doubleurs, il y a aussi les chanteurs,
tous
justement.
Les chanteurs
parce que l'une des dérives potentielles, là, ça va être de pouvoir créer en fait un clone vocal de ton chanteur préféré et lui faire chanter n'importe quoi. Tu parlais d'Angèle, je me souviens d'un duo Drake et The Weeknd qui a été complètement créé de toutes pièces aussi, qui était vraiment fou. Enfin, c'était génial.
Finalement.
Exactement, tu vas faire chanter Claude François. À nouveau, pourquoi pas, lui faire des nouveaux tubes.
Ça a été le délire, tout le monde faisait chanter à Johnny Hallyday les génériques des dessins animés.
Bonne chaîne YouTube, Johnny Hallyday qui chante Pokémon, c'est génial.
On peut faire
un jour
trucs.
Je serai le meilleur dresseur.
C'était génial.
Extraordinaire.
C'était génial. Mais c'est vrai que la voix, c'est un terrain extrêmement touchy.
Ouais.
Parce que c'est un marqueur. C'est un marqueur d'un individu. Et tu vois, dès qu'on donne une voix un peu trop humaine à un robot, ça rend le truc encore plus flippant. Et je pense que là, se dire, ta voix, elle peut être utilisée sans que tu te saches n'importe où, c'est autre chose. On est au-delà de ta photo qui atterrit sur Google et sur d'autres sites, quoi.
Et donc là, alors justement, on a vu qu'il y avait, c'est cette semaine aussi, il y a
250 artistes américains.
Artistes.
Ouais. Mais puis donc, il y avait
des gros noms. Hein.
Il y avait Nicki Minaj, Billie Eilish, des gens qui sont montés au créneau parce que. Ben, ils se disent, attendez...
Qui ont écrit une lettre ouverte, en fait, envoyée
tribune,
à tous les géants de la tech, en disant, protégez-nous, en fait.
Et qui ont écrit une tribune en se disant, voilà, OK, vous nous protégez, mais surtout, nous, on va perdre la main sur ce qu'on fait. C'est-à-dire la composition, les textes, la musique, déjà, ça, ils savaient. Enfin, on rigole beaucoup de Suno AI, mais enfin, Suno AI, il faut voir aussi... Quand on entend, on se dit, tiens, j'ai déjà entendu ça quelque part, ça s'est nourri à quelque chose. Et là, ils vont perdre leur voix, en fait. Donc, il commence à y avoir un truc un peu flippant sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle qui touche désormais la voix et plus seulement les compositions. Donc, tu perds un peu de ton âme et de ta personnalité là-dedans. Et donc, quand tu es artiste, je peux comprendre que ça commence à être un peu inquiétant.
Est-ce qu'on peut regarder aussi le côté positif de ces technologies ? Parce que le fait de pouvoir créer un clone vocal de quelqu'un, on va pouvoir imaginer, je ne sais pas moi, de la lecture de livres audio, des gens qui ont perdu leur voix même, qui ont un handicap, on va pouvoir recréer leur voix.
Sur YouTube aujourd'hui, on peut traduire ces vidéos dans des langues étrangères et mettre du coup une voix off en anglais, en chinois, en allemand, ce qu'on veut. Directement avec sa propre
avec
voix.
Sa propre... Ouais, mais c'est ça.
Donc ça, aide quand même pas mal pour, voilà, pour toucher un peu le monde entier.
Mais tu vois, ça c'est bien. C'est utile parce que tu donnes ton accord.
Ouais.
Là, le problème qu'on commence à voir avec l'IA, c'est que l'IA va se nourrir de voix, recréer des voix, sans que les personnes soient au courant. Là, c'est quand toi, tu fais la démarche. Et je pense que c'est là où la tribune, elle est intéressante, dans le sens où l'idée du consentement. Quand toi, tu fais ta vidéo aujourd'hui, tu la publies en français, tu as envie de la publier en anglais, en allemand, ça va te prendre 2 secondes de plus.
Ah oui.
Mais c'est toi qui as fait la démarche. Imagine, moi, je dis, j'ai envie d'exploiter ta vidéo sans ton accord pour la vendre, je ne sais pas quoi, et je te mets en chinois.
Ouais, c'est ça.
Mais je ne t'ai pas demandé ton avis. Mais ta vidéo, je l'ai trouvée, donc je la mets.
C'est ce qui arrive beaucoup sur TikTok, hein, des vidéos qui sont toutes reprises, qui postées sans demander l'accord et qui, dont les voix sont modifiées.
Ouais, c'est vrai. Ça. Mais alors, c'est pour ça que justement, alors OpenAI prend des pincettes, dit justement, on va le mettre déjà en mode limité dans un premier temps. On va créer à chaque fois qu'un extrait audio aura été généré par l'IA, un filigrane qui permettra de détecter, en tout cas, que c'est pas un original et que ça a été généré par l'IA. Bon, ils essayent de prendre des pincettes, mais
ils sont obligés.
Bah, ils sont obligés, mais c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. On aura l'occasion d'en reparler une fois qu'on l'aura testé cette outil, parce que c'est vrai que pour l'instant on est un peu obligé de prendre ce qu'ils nous disent et de dire ah, c'est formidable OpenAI, on verra. On va continuer rapidement sur l'intelligence artificielle. Alors je mets des guillemets cette fois-ci, intelligence artificielle, c'est très intéressant là. Amazon, alors on a beaucoup parlé des supermarchés autonomes d'Amazon, c'est la révolution avec des caméras, des capteurs, de l'IA pour gérer tout et le fait qu'il n'y ait plus de ni de caissier ni de caissière, vous arrivez, vous prenez, vous repartez et c'est l'IA qui gère tout. Ils arrêtent. Et pourquoi ils arrêtent ?
Eh bien, ils arrêtent parce qu'en fait... officiellement, leur truc Just Walk Out, qui était vous rentrez, vous prenez tout ce que vous voulez sur
vous
les étals et vous vous barrez. Évidemment, la facture arrive. Hein. Il faut quand même payer.
Mais trop longtemps après. Trop longtemps après l'arrivée de la facture.
Ah non, moi, je l'avais... quand j'ai fait les Amazon Go...
Ah, vous l'avez fait tous les deux, ça, vous avez testé ?
Moi, j'ai testé Amazon Go aux États-Unis. En gros, tu rentres, tu scannes ton appli Amazon, tu as un portique comme dans le métro, tu scannes ton appli, tu as ton sac, tu prenais les produits... Et en gros, il y a des caméras partout pour voir ce que tu prends, si tu le remets ou pas. Et dès que tu le mets dans ton sac, ça te le facturait.
Ouais.
Et tu ressortais en ayant scanné ton appli et c'était bon. Honnêtement, moi, je l'ai fait plusieurs fois, je n'ai jamais eu d'erreur.
Moi non plus.
Jamais eu d'erreur.
Mais c'est juste que le ticket arrivait un peu longtemps après. Genre, parce que parfois, on a juste envie d'avoir exactement montant précis.
T'as 10 minutes, t'avais souvent 10 minutes
d'attente. Voilà. Alors que quand on va chez un caissier normal avec un...
C'est parce que l'Indien qui faisait la facture, il mettait trop longtemps.
Eh bah, c'est ça la pointe. Maintenant, on sait. Donc, c'était l'Amazon Go, Amazon Fresh. Et ce qui se passait, c'est que moi, je regarde ça, je dis, mais c'est super, les caméras. Puis j'essaie de trigger le truc. Hein. Je remettais, je retirais. Je me dis, ça marche vachement bien, j'ai jamais eu une erreur. Eh bien, on a appris que, justement, il y avait quand même des milliers d'Indiens qui travaillaient à vérifier, en catimini, à vérifier que les caméras ne se trompaient pas.
Donc, c'était de l'intelligence artificielle avec des humains derrière, en fait.
Voilà. Alors, Amazon n'avait jamais caché qu'il y avait des systèmes de vérification. Même en magasin, il y avait quand même 2-3 personnes, on savait, derrière, qui regardaient. Mais on ne pensait pas qu'il y en avait autant. Et surtout, on pensait que c'était de l'ordre de 50 ventes à vérifier sur 1000. Non, en fait, c'était 700 sur 1000.
Wow.
Ce qui rend le truc un peu moins...
Ah bah, c'est un peu moins sexy, quoi. Tu as le supermarché autonome, là, il n'est plus du tout autonome. Il est juste externalisé Inde, quoi.
Alors,
c'est juste
officiellement,
ça.
Disent qu'ils ferment... Alors, ils arrêtent ce process dans les Amazon Fresh, qui était vraiment le côté primeur.
Et qu'aux US, hein. Ça continue au UK, par contre.
Alors, en fait, les Amazon Go continuent. Le Whole Food, la chaîne qu'ils ont rachetée, continue. Le Amazon Fresh, donc, ils en avaient notamment chez eux. Ça, ils arrêtent le Just Walk Out. Faudra payer normalement. Pour deux raisons. Un, officiellement, ça marche moyen. Deux, je pense que ça leur coûte cher derrière. Mais ils essayent de pousser une autre technologie qui, pour nous, à mon avis, va nous rappeler certaines choses dans nos supermarchés, qui est ce qu'ils appellent le Dash Cart. Alors, c'est un chariot intelligent. En gros, vous êtes pareil, vous êtes rentré, vous avez scanné votre appli Amazon et derrière, vous allez scanner le QR code de chaque produit. C'est ce que nous, on fait aujourd'hui. Ouais. C'est les scannettes avec les codes barres que nous, on connaît.
Tu auras besoin de scanner ou c'est juste le truc que tu le mets dans le panier et ça détecte tout automatiquement?
Alors, c'est pas mal. C'est un peu flou parce qu'apparemment, c'est le panier, le chariot intelligent qui scannerait dès que tu mets le truc dedans.
Ouais, c'est ça.
Mais là,
c'est pas mal.
C'est ça chez Decathlon il n'y a pas longtemps. Ouais. On va à la caisse express classique. On a juste à prendre son produit, on le met à peine dans le bac. Ouais. C'est scanné directement.
Il y a des boîtes françaises qui font ça.
C'est génial.
Ça fonctionne très très bien.
Il y en a beaucoup. Il y a des Français qui inventent ça. Mais c'est drôle. Le paiement par la paume de la main aussi. On sent qu'ils ont quand même besoin de sécuriser tout le système. Mais ça reste des trucs pratiques.
C'était un peu trop beau pour être vrai.
Il faut reconnaître que ça reste des trucs pratiques. Moi, le Amazon Go où tu passes 3 minutes et.
Non, mais d'accord. Mais alors, le truc, tu vois, parce qu'on te promettait un truc hyper pratique où tu n'as plus besoin de faire la queue, donc très très bien. Donc, en gros, c'est on n'a plus besoin de caissiers et de caissières. Là, en fait, c'est juste on va prendre des humains qui ne seront pas des caissiers et des caissières, qui seront payés 10 fois moins cher en Inde et qui feront le taf.
Vois le côté positif des choses.
Oui, c'est bien.
J'aime bien me faire l'avocat du diable. Un, toi, tu ne perds pas ton temps puisque ça change rien pour toi.
Bien sûr.
Deux, ça n'a pas détruit d'emploi.
Bon, ça les a pas détruits en Inde.
Donc, ici,
dépend comment tu vois les choses.
Non, mais je t'ai dit.
Bon, non, mais en tout
cas. En tout cas, c'était drôle.
Pour moi, là, on est quand même dans un cas de ce qu'on appelle l'IA washing, quoi. Comme il y a du greenwashing, on nous met de l'IA. Non, mais il y a quand même de l'IA. Mais quand même, on nous a un peu survendu le truc.
Ouais, mais je pense que ça va aller en diminuant. Mais il y a quand même de l'IA dedans. C'est quand même un système, en effet, avec beaucoup, beaucoup de caméras, d'équipements. Ça marche. Globalement, ça marche bien.
Tu verrais ça arriver en France ou pas?
Mais en France, tu sais qu'il y avait déjà eu un essai sur un casino.
Ouais.
Dans le 11e arrondissement à Paris. Okay. Alors c'était un peu cheapos à côté, on va pas se mentir, mais c'était le même système, ils avaient une 60aine de caméras. T'avais quand même une personne, t'as toujours des personnes dans le magasin pour vérifier que ça se passe bien, puis il y a toujours besoin de gens pour mettre dans les rayons. Ouais. Donc c'était la même idée.
Bon, très bien pour Amazon, on a hâte de tester leur nouveau panier, leur Dash Cart quand ils arriveront en France. On va parler de TikTok rapidement, il nous reste quelques minutes. Alors moi ça m'a fait halluciner ce truc là, ouais, TikTok, bon, qui est quand même globalement accusé de
tous les maux de la terre.
Oui. Et notamment d'abrutir la population. Enfin, c'est un peu ça TikTok, bon. Et TikTok qui veut là visiblement nous rendre intelligents. Ils ont lancé un outil qui s'appelle STEM, c'est ça ?
C'est un fil info qui existe aux États-Unis déjà depuis un an.
Ouais.
C'est-à-dire que vous avez votre fil pour vous. Et à côté, il y a ce fil STEM. Alors, c'est très drôle parce qu'il est automatique chez les moins de 18 ans.
Qu'est-ce que ça veut dire, STEM ?
Alors, STEM, c'est pour science, technologie, engineering en anglais, et mathématiques. Ouais. Et en gros, ce ne sont que des contenus sur ces thématiques-là qui sont poussés en avant, qui sont en anglais pour le moment. Ça arrive en France et en Europe. En France, ce sera sous-titré automatiquement en français. Mais ce sont des contenus donc à vocation plus éducatif qui sont poussés. Alors, c'est drôle ce que tu dis parce que moi, je n'utilise pas TikTok sauf quand je dois tester des nouvelles fonctions parce que ce n'est pas ma came du tout, les vidéos comme ça. Mais il y a une chose que je reconnais à TikTok qui n'est pas du tout mise en avant, c'est qu'ils ont énormément de contenus, réellement, de gens qui font des contenus éducatifs et intelligents. Mais je suis d'accord avec toi, ce n'est pas mis en avant.
Ah mais c'est ça. Non mais ouais, mais c'est là la clé.
Alors,
parce que si tu veux,
TikTok, que c'est mis en avant.
Attends, c'est mis en avant par TikTok.
Mais
en Chine, c'est mis en avant par TikTok en Chine.
Ça leur pense aussi un petit peu, mais les gens, c'est pas ça.
En tout cas, ça leur a beaucoup été reproché de dire, en gros, vous avez un algo qui fonctionne différemment en Chine et en Occident. En Chine, on pousse des contenus éducatifs. Un enfant qui utilise TikTok, on va lui pousser des contenus éducatifs parce que ça va être fait pour élever l'enfant et l'esprit. Et en Occident, les Chinois disent « bah en fait, on va juste les abrutir et puis on s'en fout ». En tout cas, c'est l'accusation qui pèse sur TikTok, notamment aux États-Unis.
Et elle est vraie. Parce que quand vous avez envie et le courage d'aller farfouiller sur TikTok, c'est comme YouTube, en fait, à une époque. Tu sais, on disait, il n'y a que des vidéos idiotes sur YouTube. Alors que quand t'allais fouiller, il y avait des vidéos sur l'histoire, des choses. Il y a énormément de contenu hyper intéressant sur TikTok. Il y a des gens, franchement, il y a beaucoup de profs qui font des contenus.
Oui, mais tu fouilles jamais sur TikTok. Tu as le flux qui arrive et tu scrolles.
Moi, je connais des gens qui vont vraiment sur TikTok de ma génération pour apprendre des langues, pour apprendre des recettes de cuisine, pour avoir les bons plans des restaurants, des choses à faire dans les pays qu'ils vont visiter. Et ils vont sur TikTok et plus sur Google. Ils vont plus taper sur Google.
C'est devenu le moteur de recherche numéro un des jeunes. Et en fait, une fois que tu as mis ton fil, tu as comment dire, customisé ton TikTok avec des contenus intelligents et intéressants, tu n'as que ça après. Ouais. Et le problème, c'est que les gens se partagent surtout des vidéos lol, des vidéos buzz. Et si tu n'es pas un gros utilisateur de TikTok, c'est l'algo fait ça.
Ouais.
Mais il y en a plein. Et ça arrive donc fin avril en France. Honnêtement, il y a eu BookTok, souvenez-vous, le truc des livres. Ça fait un carton. Ouais. C'était pas prévisible de se dire, je vais chercher mes recolectures sur TikTok. Ouais. Ils ont fait ça après avec des contenus sur l'histoire, sur des choses. Ils essayent de pousser. Il faut au moins leur reconnaître ça.
Oui, je pense qu'ils font ça. Je sais pas ce que t'en penses, JB, aussi, pas pour se donner bonne conscience, pour se donner une bonne image, notamment parce qu'ils ont quand même méga chaud aux fesses, notamment aux États-Unis, où ils risquent risque là d'être banni complètement. C'est-à-dire que là, la loi, enfin, en tout cas, il y a des projets législatifs pour interdire TikTok sur l'ensemble du territoire. Donc là, ils doivent se dire, bon, bah, on va quand même proposer des trucs un peu intelligents pour avoir des arguments à mettre en avant, quoi.
Mais ce serait bien, mais après, il faut savoir si, comme tu disais que c'était qu'en anglais, sous-titré français.
Ça va venir en France aussi, je pense, qu'après.
Quand ça viendra en France, est-ce que les contenus français déjà créés par des gens qui font des choses intelligentes vont être dans cette catégorie ou pas ?
Dans un premier temps, ça va être les contenus venus des États-Unis. Ils ont 15 millions, plus de 15 millions en un an. Ça fait un an que ça a été lancé, ils ont eu déjà 15 ouais. millions de contenus. C'est des contenus qui sont vérifiés. Il y a deux organismes qui vérifient que ce soit adapté à TikTok, que les contenus soient vérifiés, histoire de ne pas non plus raconter n'importe
quoi. Et pas fait par l'IA.
Et pas fait par l'IA. Donc, il y a quand même une cellule de vérification autour de ça. Okay. Je pense que l'idée, c'est aussi à terme que, voilà, d'avoir des contenus français, parce que je ne suis pas sûre qu'un môme de 12-13 ans, même s'il a envie de s'informer, il a envie de se taper des vidéos en anglais, même sous-titrées. Enfin, c'est pas forcément
l'usage. Moi, dans ma jeune
l'usage...
enfance, il y a des années, hein, je regardais C'est pas sorcier. C'est
où sur TikTok ?
Ah non, sur YouTube.
Ah oui.
Non, mais sur YouTube.
Alors,
sur YouTube.
Jeune, mais quand même.
Ouais, c'est ça.
Non, mais je regardais. Enfin,
oui,
je m'informais sur YouTube.
Je regardais C'est pas sorcier à la télé. Donc,
nous,
c'est là
on regardait à la télé
voilà.
Parce que nous,
c'est là on est vieux.
Aussi. Mais maintenant, c'est sur YouTube parce que c'est plus la télé. Mais du coup, je pense que les jeunes aujourd'hui vont venir vraiment se former sur TikTok parce qu'ils passent leur vie. Tu regardes dans le métro le matin, ils sont tous sur TikTok.
Tu l'entends surtout de plus en plus qu'ils sont sur TikTok.
Bah, ils enlèvent les écouteurs maintenant.
Oui, maintenant, c'est la mode.
Ça, c'est horrible. Ça, me lancez pas là-dessus parce que là, ah oui, c'est un autre débat, mais c'est très, très énervant, effectivement. Alors, on parlait de TikTok, truc générationnel, on va revenir au mail, voilà, la technologie à l'ancienne, hein, et on va revenir 20 ans en arrière avec la naissance, parce que c'est l'anniversaire de Gmail cette semaine. Gmail, tu utilises Gmail ou pas Gmail
ouais,
toujours, quand même.
Et alors,
Melinda,
j'ai envie de te dire, qui n'utilise pas Gmail?
Ouais, tout le monde. 1,8 milliard d'utilisateurs dans le monde, hein, c'est quand même pas mal. Et alors, ce qui est très marrant, alors c'est né Gmail, je voulais raconter ça très rapidement, parce que certains ne le savent pas probablement, c'est né le 1er avril.
Moi, je ne savais
2004.
Pas, tu m'as appris quelque chose.
Alors, et c'est né comme un poisson d'avril, un vrai faux poisson d'avril. Et c'est là que tu vois le génie marketing de Google, c'est-à-dire qu'ils ont présenté ça le 1er avril, et en fait le service était tellement révolutionnaire à l'époque, parce qu'en gros c'était 1 giga de stockage gratuit, donc c'était à peu près 13 000 mails, là où à l'époque, moi j'avais complètement oublié ça, mais Hotmail et Yahoo proposaient 30 à 60 mails, c'est-à-dire qu'il fallait tout le temps supprimer les mails dans ta boîte mail, c'est un temps qui nous paraît mais complètement archaïque, moi j'avais complètement zappé ça de ma mémoire, le fait qu'il fallait
2004.
Supprimer les mails. Quoi ? 2004, tu vois, il y a 20 ans. Et donc ça paraissait tellement fou que tout le monde a dit, non mais c'est un poisson d'avril, donc Associated Press a sorti l'info. Des gens ont écrit à Associated Press en disant ah, vous êtes fait avoir par Google, c'est un poisson d'avril, c'est un poisson d'avril, c'est un poisson d'avril. C'était pas du tout un poisson d'avril, c'était vrai. Mais voilà, Google a vraiment réussi son coup marketing avec
c'est
Gmail.
Génial.
Bonne histoire.
Moi, je savais pas du tout cette histoire. Enfin, j'avais pas tilté que c'était un 1er avril, ouais. Mais je me souviens très bien que quand c'est arrivé Gmail, en effet, on se disait oh, mais c'est quoi tout cet espace de stockage pour recevoir des mails ?
C'est trop beau pour être vrai.
J'étais sur Hotmail, je sais pas quoi, j'avais une boîte d'entreprise, pareil, où tu devais faire le ménage sans arrêt parce qu'elle saturait.
Ah, bien sûr. Bien sûr. Non, mais c'était extraordinaire.
C'était la révolution.
Et ce qui est marrant, je trouve, c'est qu'il y avait, cette. Alors, je trouve que ça se perd un peu, mais cette tradition des poissons d'avril, tous les 1er avril, il y avait tous les grands groupes tech, et notamment Google, ils étaient connus pour ça. Ils sortaient, alors, souvent des fausses annonces, parfois des vraies,
parfois,
mais en tout cas.
C'était grotesque, c'était
parfois,
tellement énorme.
C'était énorme.
C'était drôle.
Ouais. T'avais des trucs, ils avaient sorti le moteur de recherche olfactif, je sais pas si tu te souviens de ça.
Ça me dit quelque chose.
Ils te disaient qu'il fallait gratter ton écran et t'avais de l'odeur.
Une
odeur qui
allait sortir. Une pensée pour tous ceux qui ont ruiné leur écran.
C'est clair. Non, mais
aujourd'hui, je suis d'accord avec toi, ça se perd, et c'est d'autant plus dangereux que souvent on nous sort des trucs qui ont vraiment l'air d'être vrais et alors pour nous journalistes c'est quand même un enfer hein, le 1er avril et je trouve que c'est terrible parce que moi j'aimais bien le côté un peu foutraque du truc où tu savais pertinemment que c'était un poisson d'avril et c'était drôle parce qu'il y en a qui étaient en effet qui étaient hyper créatifs. Aujourd'hui tu as des choses qui sont potentiellement vraies et au final on fait hey, non c'était faux, t'es passé pour un idiot. Et tu dis, bah, c'est dommage parce que c'est une bonne idée, en fait, les gars.
Tesla, ils ont l'habitude de sortir des objets dérivés, dont une planche de surf il y a des années. Bah, là, ils ont présenté pour le 1er avril des skis. Je pensais que c'était vrai.
Et là, c'était une
sorte. Faux.
Parce qu'avec Tesla, tu sais jamais.
Bah, voilà.
Oui,
alors
il y avait le lance-flamme aussi.
Ouais. Alors que pourquoi pas ?
Bah oui.
Et toi, et une pensée pour Dyson quand ils ont sorti leur casque, vous savez, avec le purificateur d'air, qui eux ont la bonne idée d'annoncer ça le 31 mars au soir. Donc les gens le lisent le 1er avril, personne n'y croit, alors que le produit existe bel et bien.
Franchement, ils auraient pu le laisser en poisson d'avril, celui-là. Je sais pas.
Ouais, mais c'est un très bon casque audio.
Ouais,
tu l'as
d'accord.
Testé, je te rappelle que j'ai une très belle photo de toi.
Oui, c'est vrai. C'est ma photo de profil sur Twitter. Donc figure-toi que voilà. Mais c'est quand même complètement absurde. J'ai jamais vu personne dans la rue, en tout cas, avec ce machin.
Pour nous, c'est pas du
tout. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, mon préféré poisson d'avril, c'était Google. Ils avaient fait Google Maps, mais en 8 bits, version NES. C'est-à-dire qu'en gros, tu choisissais un endroit sur la carte et en fait, ça te mettait. C'était une carte en 8 bits sur.
Dans quelle année ?
C'était en 2016-17, je crois.
L'enfer, allez,
c'est génial.
Wow.
C'est très, très bon. Bref, on va s'arrêter là, les amis. Bon, on a encore plein de choses à se raconter, mais c'est pas grave. On reviendra.
On reviendra.
Hein, j'espère. Merci beaucoup. Merci Mélinda. Merci JB d'avoir été avec nous. Restez avec nous surtout. On va se retrouver dans un instant pour parler de. Ça se dit encore photophone. On disait ça à une époque, non?
Photophone, oui.
Photophone, ça se dit toujours. Ouais. Hein. Smartphone pour la photo. Ouais. Voilà. C'est quoi les meilleurs? Je sais que vous avez votre idée. On va voir si Lionel a la même. Lionel Costa, on le retrouve dans un instant. Merci beaucoup à tous pour votre fidélité.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle avec Anthony Morel.
Allez, on continue, deuxième partie de ce De quoi je me mêle. On va parler matos, on va parler hardware, on va parler smartphone et appareils photo avec Lionel Costa. Lionel Costa, le responsable du développement du Labo Fnac. Salut Lionel.
Bonjour Anthony.
Ravi que tu sois avec nous pour ce classement. Alors on va parler de tout ça. Juste, je vous dis d'un mot, restez avec nous après cette deuxième partie pour vous qui êtes en audio, en podcast. Ben oui, c'est ce petit bonus qu'on vous propose désormais chaque semaine, le bonus audio podcast. On va parler du Vision Pro. On va faire un petit résumé avec notre ami JB de ces deux mois qu'il vient de passer avec le Vision Pro. Est-ce qu'il l'utilise toujours? Est-ce qu'il l'a mis au placard? Est-ce qu'il a trouvé des killer apps, des applications absolument incroyables qui lui ont fait adopter au quotidien le Vision Pro? On discutera de tout ça avec lui. Ce sera pour tous ceux qui nous écoutent. Bah oui, on a envie que vous veniez nous écouter en podcast au maximum. Pour le reste, on revient avec toi, Lionel. On va parler, alors on disait des photophones, des appareils photo, enfin des smartphones, on va dire, qui sont très axés sur la photo. On sait que c'est un très gros argument commercial. Aujourd'hui, c'est ce que regardent, je pense, les gens en un avec le prix.
Ouais,
quoi.
Exactement, numéro un.
Numéro un.
C'est vraiment le critère numéro un, et c'est vraiment le critère qui a évolué en 10 ans sur les smartphones, qui a tout cassé, qui a cassé le marché même de la photo sur les compacts numériques. Peut-être, je reviens sur ce qu'est le Labo Fnac pour les gens qui ne connaissent peut-être pas très
absolument
rapidement. Alors, le laboratoire Fnac, c'est une entité vraiment particulière qui n'y a pas d'équivalent dans le monde. On peut vraiment se faire un cocorico parce que c'est vraiment français et ça date des années 70. En 72, les fondateurs de la Fnac ont voulu créer un laboratoire pour conseiller les meilleurs produits par rapport à leur performance. Et en fait, depuis 50 ans, enfin depuis plus de 50 ans maintenant, on continue cette mission-là, d'informer le client sur les performances réelles des produits. Quand je dis réelles, c'est des performances qui sont en tout cas mesurées. Mesurées, qui sont scientifiquement contrôlées. On a des équipements qu'on voit là en vidéo, des équipements de pointe qu'on essaie de mettre à jour le plus régulièrement possible. Et en fait, voilà, notre passion à nous, c'est de mesurer, de donner des éléments de comparaison pour que les clients puissent choisir de manière éclairée.
Alors, il faut décrire pour ceux qui nous écoutent, oui. Là, c'est quoi ces équipements? C'est des équipements qui vont quantifier en fait la qualité technique, mesurer certains paramètres extrêmement précis sur, par exemple, la photo ou d'autres paramètres du téléphone.
Je prends l'image de la photo, on ne pourrait pas se permettre de tester un appareil photo dehors dans la rue. Si je teste en janvier ou si je teste en juillet, je n'ai pas la même luminosité, je n'ai pas les mêmes environnements, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas se permettre de ça. Ou si on le fait, on peut le faire en one shot, mais ça n'aurait pas du tout de matière à comparer plus tard. Donc on est obligé d'avoir un environnement contrôlé, donc on a des lumières de mesure. Enfin, avant c'était des HMI, c'est une technologie de lampe. Ensuite, là on est passé au LED. Ça nous permet de garantir une uniformité, une température de couleur qui est complètement sous contrôle. Et voilà, tous ces équipements que nous avons nous permettent à chaque fois de contrôler notre environnement. Et quand on mesure quelque chose, que ce soit des décibels, des watts, des candelas, des lux ou peu importe, on peut garantir que si on refait le test un an, deux ans, trois ans après, on a le même résultat.
Méthode scientifique.
Exactement.
Donc vous allez pouvoir benchmarker finalement tous les smartphones du marché. Donc on est largement au-dessus du fait de prendre le communiqué du fabricant, de regarder les specs et de dire celui-là, il est mieux que celui-là. Évidemment, c'est quand même un petit peu plus efficace. Alors justement, avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler du classement à proprement parler, parce que c'est ce que les gens attendent, mais sur justement les critères qui sont mesurés et sur comment est-ce qu'on choisit un bon photophone, un bon smartphone pour son appareil photo, c'est quoi les critères à regarder? Moi, en tant que béotien, je me dis, faut regarder le nombre de mégapixels, faut regarder peut-être le nombre de capteurs à l'arrière du téléphone qui se sont multipliés ces dernières années comme les boutons sur le visage d'un ado acnéique, hein, parce que c'est pop, 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 il y en avait un au début, maintenant il y en a cinq. Est-ce que c'est des éléments importants ou il y a d'autres choses?
Alors, malheureusement, ça ne suffit pas. sur l'évaluation d'un photophone, c'est vrai qu'on s'attaque à quelque chose d'assez complexe parce que la photo, c'est très émotionnel, c'est très subjectif. Et donc, nous, on arrive là-dedans, on arrive les pieds dans le plat en disant, bah, en fait, c'est pas le subjectif qui compte. C'est-à-dire que si jamais, je prends souvent cet exemple-là, si je prends des photos quand je vais en Bretagne, je prends les photos d'un beau ciel bleu, mais qui est un petit peu pâle, sans faire offense aux Bretons. Voilà,
toujours un beau ciel bleu en Bretagne, évidemment.
Et que la photo qui ressort, que mon appareil photo ou que mon smartphone capte, est un bleu type Punta Cana du Mexique, ok, je suis très content, ça m'a fait voyager, mais ce n'est pas la vérité. Et en fait, je fais ce côté-là parce que les gens vont fantasmer de se dire « c'est génial, le ciel, il est claquant et tout », mais ce n'est pas le vrai, en fait. Et nous, on est là pour mesurer la réalité des choses, à l'image essentielle de la IFI. IFI, c'est l'acronyme de haute fidélité. Fidélité à quoi ? Bah à la référence, à ce qu'on essaie de voir.
C'est presque une question philosophique, en fait. Est-ce qu'on veut reproduire, est-ce qu'on veut bien noter, finalement, la fidélité à la vérité et à la réalité, ou est-ce que c'est le truc qui va faire plaisir à l'utilisateur parce que c'est joli à l'écran ?
Ouais, et ça, pour nous, c'est l'enfer. Quand on discute avec des fabricants, quand on va à l'étranger, quand on va dans leur laboratoire, qu'ils essaient de comprendre et qu'ils nous montrent deux posters en disant bah, « celui-là, il est forcément mieux que celui-là, vous voyez bien ». Et on leur dit « Ok, subjectivement, ça vous plaît plus, ça flatte plus, mais ce n'est pas forcément le plus vrai. » Et c'est à l'image de si je prends en photo les joues d'un bébé, qui vient, enfin d'un jeune enfant, la vraie photo, les joues vont être couleur peau. Une photo un peu trop saturée, on va avoir vraiment du rouge ou du violacé sur les joues qui va être généré par le smartphone qui va vouloir avoir plus de couleurs.
Donc fondamentalement, ça veut dire qu'on ne peut pas se fier simplement aux specs qu'on lit sur le site d'un fabricant pour pouvoir juger. Il faut aller sur justement des comparateurs, en tout cas des benchmarks comme ceux que vous produisez. Vous n'êtes pas les seuls au monde évidemment à faire ça, mais en tout cas, ça, c'est cette validité scientifique qui fait qu'on va choisir un smartphone plutôt qu'un autre.
En fait, c'est ça, c'est que le nombre de mégapixels, c'est un indicateur, mais si je prends cet exemple spécifique, on peut avoir des produits 200 mégapixels avec un capteur tout petit. Et en fait, ce qu'on va se rendre compte, c'est si on veut prendre la carte d'un menu avec un zoom 200 fois, etc., un produit à 30 mégapixels face à un produit à 200 mégapixels, le 200 mégapixels sera une photo plus grosse, mais moins de détails. On peut générer des artefacts, on peut générer des aberrations chromatiques qui font que la définition ne sera pas respectée. Donc, ce n'est pas forcément un critère malheureusement différenciant.
Il y a un élément qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est le HDR.
Ouais.
HDR, donc c'est High Dynamic Range, imagerie à gamme dynamique, donc c'est ce qui permet en fait de faire plusieurs photos avec différentes expositions et on les combine, en fait, c'est ça.
Pas forcément, on peut avoir un seul cliché et avoir quand même ce HDR qui est effectif.
D'accord.
En fait, l'High Dynamic Range, il fait un truc de fou qui n'existait pas il y a 10-15 ans en fait, dans le monde de la photo. C'est que mon œil, si je regarde la lune avec un ciel très noir ou si je regarde un coucher de soleil avec quelque chose de très surexposé, mon œil va pouvoir s'adapter. L'appareil photo, non, il ne sait pas au départ. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Le HDR va enlever les nuances de couleurs dans les médiums, mais va arriver à nous mettre tout plein de nuances, soit dans les zones très sombres de l'image, soit dans les zones très lumineuses de l'image. Ce qui fait qu'on n'aura pas de soucis de suraccentuation ou de sous-accentuation. C'est vraiment une vraie nouveauté, qui a à peu près 10 ans, mais en tout cas, une vraie fonctionnalité qui est utile dans la vraie vie. Ça, malheureusement, ça peut générer d'autres problématiques, mais voilà, le HDR, ça fait partie des éléments qui sont extrêmement importants en fait, dans l'usage de tous les jours.
Rapidement, et après on passe au classement à proprement parler, c'est promis, il y a quand même un élément qui revient beaucoup en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Oui. Dans les smartphones, c'est devenu le gros argument marketing, argument commercial de tous les fabricants. Mais ça, comment est-ce qu'on peut le quantifier ?
Alors, au laboratoire, on a une philosophie de se dire, on évalue le produit fini, c'est-à-dire que le cliché qui a été généré, c'est lui qu'on va analyser. L'IA, c'est quelque chose de très complexe parce que ça évolue tout le temps, surtout sur un smartphone. Autant sur un appareil photo, s'il y a des algos, etc., une fois qu'on l'a testé, on se dit que ça ne va pas trop être mis à jour, bien que ça peut se mettre à jour. Un smartphone, c'est mis à jour vraiment continuellement. Donc, on ne peut pas encore aujourd'hui l'évaluer. On essaie de réfléchir à voir comment arriver à l'évaluer, mais c'est très compliqué parce que du jour au lendemain, on peut avoir un update qui fait que l'intelligence artificielle va mieux détecter les visages, les sourires, les yeux, les objets, va pouvoir redessiner un objet qui a été mal pris par le capteur photo. C'est-à-dire que s'il va détecter que c'est un vase, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de pixels, il va redessiner un vase artificiel.
Là aussi, il y a de la triche.
Bien sûr qu'il y a de la triche, mais en fait, on se rend compte que dans le monde de la photo, encore une fois, on intéresse un public qui, des fois, veut mieux que ce qu'il a. Ouais. Donc il va fantasmer une photo qu'il aimerait voir. Voilà. Et pour rappel, évidemment, la partie photo sur un smartphone, c'est pas tout ce que nous testons. On teste l'autonomie, la performance, la qualité d'écran, l'audio, etc. Mais la photo est évidemment un point extrêmement important de critères d'achat d'un smartphone aujourd'hui.
Alors, sur ce critère photo, roulement de tambour, si on devait faire un classement aujourd'hui, donc on est le 5 avril, le jour de la diffusion de l'émission, quel est le meilleur photophone du marché en prenant en compte tous les critères dont on vient de parler?
C'est ça. Les critères en photo, je prends en compte la qualité photo optique, c'est-à-dire les aberrations chromatiques, le vignettage, la distorsion, la colorimétrie, la fidélité de couleur, la sensibilité, c'est-à-dire arriver à prendre des photos même avec très peu de lumière, et également la définition. Le meilleur appareil photo aujourd'hui qui est en vente actuellement, que nous avons testé, est le Google Pixel 8 Pro.
Ok.
Le Google Pixel 8 Pro, or, il a plein d'avantages. C'est un produit à moins de 1000 euros, hein, qui est à 949 euros. Il obtient 5 étoiles parce qu'en plus, il est très polyvalent. Il fait un petit peu tout, ce smartphone. C'est juste un 50 mégapixels, mais il obtient la meilleure note en termes de photos.
Waouh. On avait beaucoup vanté, hein, les qualités, ouais, photo des pixels en général, d'ailleurs. C'est historiquement l'un des points forts des pixels. Mmh. Alors, c'est marrant. Moi, je ne l'aurais pas forcément imaginé en tête. On a beaucoup parlé des iPhones, la sortie des derniers iPhones, les iPhone 15, notamment le Pro et le Pro Max. Ils sont où dans le classement?
En fait, les iPhones sont très bons, ce sont des très bons produits, mais ils ne sont pas dans notre classement à nous, dans le top 10.
Ils ne sont pas dans le top 10?
Ils ne sont pas dans le top 10.
Mais ce n'est pas possible.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, leur gamme, ils respectent parfaitement leur classement. Le premier, c'est le 15 Pro Max, puis le 15 Pro, puis le 15 Plus, puis le 15. Et pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas dans le top 10? Parce que c'est nous qui devons faire évoluer notre protocole, évidemment. Il y a des éléments que nous ne prenons pas en compte. Aujourd'hui, on ne teste pas la vidéo, par exemple.
Ah oui, ouais.
La vidéo, c'est un élément extrêmement important. Ouais. Et ça, c'est un truc qu'on veut faire évoluer, évidemment, j'espère le plus rapidement possible, pour le prendre en compte, parce que c'est un élément important. Donc, les
bon
iPhones...
Confort des iPhones, hein, effectivement.
Exactement. Et en fait, et iPhone essaye quand même de faire des très beaux compromis sur plein d'éléments. Ils sont assez rapides, ils sont très véloces avec leur puce M. Ils ont des écrans qui sont quand même de qualité. Ils ont une autonomie qui est très bonne. Donc en fait, ils font un arbitrage pour faire rentrer là-dedans, dans le parallépipède, plein d'éléments, dont la partie capteur photo. Mais en photo, ils s'en sortent moins bons, ils sont moins efficaces que le Google Pixel 8 Pro, par exemple.
Ça, c'est dingue quand même. Enfin, le fait qu'il soit derrière le Pixel 8, ça me choque pas tant que ça. En revanche, qu'il soit pas dans le top 10, je pense que tu vas faire hurler tous les fans d'Apple qui nous écoutent. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?
Sur les commentaires, qu'ils n'hésitent pas. J'adore les trolls.
Non, mais attends. En tout cas, ça interroge, oui. Parce que ça va quand même à l'encontre du... Ouais. Je ne sais pas si c'est une idée reçue, mais on a tous en tête que les smartphones, les iPhones, pour la photo, c'est des téléphones extraordinaires. Alors, sans nous faire le classement total, mais les marques qui s'en sortent bien derrière, c'est quoi? C'est Samsung, j'imagine?
Ouais, on a du Samsung, mais on a Sony aussi. Ouais. Sony qui a vraiment fait un gros axe sur la partie capteur photo. Mais on a aussi des Asiatiques type... Vivo, Xiaomi, qui s'en sortent vraiment bien.
Ouais, la gamme Redmi, hein, notamment.
Exactement. On a d'ailleurs une petite mention spéciale pour la partie selfie. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Dans notre protocole de test, nous testons plusieurs focales, plusieurs usages. Grand angle, standard, téléobjectif. Mais on teste également le capteur arrière et le capteur selfie. Tu parlais du nombre de lentilles, etc. On ne peut pas savoir quelle est la lentille qui est effective. On ne peut pas dire je veux la lentille A, la lentille B. Non, c'est par rapport à un usage. Si je suis près, si je suis loin, c'est tel capteur, telle optique qui va être utilisée. Eh bien, dans la partie capteur selfie, il y a une mention spéciale pour le Xiaomi Redmi Note 13 5G. Ouais, ouais. Celui-là, ce n'est qu'un 4 étoiles en smartphone, mais par contre, c'est un produit qui a obtenu la meilleure note en fait en selfie. Et ça veut dire que ils ont fait un arbitrage en disant on va mettre beaucoup d'éléments, beaucoup de fonctionnalités sur cet usage là qui est le selfie.
Ouais, voilà. C'est pas mal.
Et ce n'est qu'un 16 mégapixels en plus.
Ouais, donc effectivement. Pourquoi? Si vous voulez faire, si vous êtes addict aux réseaux sociaux, c'est Xiaomi qu'il faut. Vers Xiaomi qu'il faut.
C'est aller. Ça, le selfie. Alors, le Google Pixel 8 Pro est très bon, mais le Xiaomi Redmi Note 13, c'est un super bon compromis. Ouais. Et là, à l'image de ça, c'est un 108 mégapixels en résolution arrière. Pas efficace parce que moins bon que le Google Pixel qui lui était à 50 mégapixels.
C'est beaucoup plus compliqué que simplement regarder le nombre de mégapixels sur la fiche du fabricant.
Alors, exactement.
Il y a un dernier point, parce qu'il y a aussi une question de budget, évidemment, que dans les téléphones que tu as cités, alors que ce soit les iPhones, les Pixels, on est quand même sur des téléphones haut de gamme, qui sont à 1000 euros ou plus. Après, tout le monde n'a pas ce budget-là. Les gens vont vouloir mettre peut-être 200, 300 euros dans un smartphone, parfois moins. Est-ce que dans les smartphones entrée milieu de gamme, tu as un coup de cœur photo?
Ouais. Il y a vraiment une belle surprise, parce que nous, quand nous testons, on est évidemment pas en lien avec les marques, nous, ni avec le commerce. On se fiche totalement et de la marge et du prix du produit. Ça, c'est pas du tout nos préoccupations. Mais après, quand je viens faire cette chronique-là et que je regarde un petit peu les segmentations prix, il y en a un qui ressort complètement. Il est à 169 euros. Donc vraiment, on est au bas, enfin, vraiment milieu bas. Ouais, ouais. C'est le Samsung Galaxy A05S.
OK.
C'est un smartphone qui obtient 3 étoiles. Donc, ce n'est pas un produit extraordinaire dans sa globalité, mais en note photo, il est dans le top 10, lui.
C'est dingue.
Il est dans le top 10.
Il a tout misé sur l'appareil photo, les gars.
Eh bien, oui, en fait. Par contre, il n'est pas très autonome, pas très bonne qualité d'écran, il n'est pas très véloce, mais par contre, sur la partie prise de vue en mode statique, je prends une scène, etc., il n'y a pas beaucoup de défauts, il y a une très bonne colorimétrie. Quand je dis défaut, il n'y a pas d'aberration chromatique, il n'y a pas de distorsion ni de déformation. Et en sensibilité, il est très bon. Et ça, c'est peut-être aussi un petit peu de l'IA qui a été intégrée dessus par Samsung. Ouais. C'est-à-dire d'arriver à analyser qu'une zone sombre, il ne faut pas générer de bruit. Donc, en fait, il redessine la zone sombre. Ça, c'est toute l'intelligence que les constructeurs mettent aujourd'hui dans leur smartphone.
Hyper intéressant, hein, cette question d'arbitrage, voilà, sur quels éléments du smartphone on met la priorité. Et ce n'est pas toujours en fait, très intuitif pour l'utilisateur final. On rappelle rapidement, hein, donc numéro 1 du classement, Google Pixel 8 Pro. Mmh. Pour les selfies, Xiaomi Redmi Note 13. Les iPhones aux fraises, a priori. et le Galaxy A05s dans les entrées de gamme. Bah, voilà, c'est complet. Merci beaucoup, Lionel, pour le classement. et puis, nous, on se retrouve tout de suite pour le petit bonus, on va parler du Vision Pro. A tout de suite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.